Et le verset que j'ai choisi nous introduira dans un récit, dans une histoire qui est peut-être la vôtre, ou qui ressemble peut-être à un petit bout de la vôtre. On trouve ça dans le premier livre de la Bible, au chapitre 37 du livre de la Genèse et au verset 3. Ça nous parle d'une relation père-fils. Ça nous parle d'une relation qui a bien commencé, qui a failli mal se terminer. Oh, ça nous parle de l'histoire entre Joseph et Jacob. Dans ce verset, dans ce passage de la Bible, il est dit que Israël, donc Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ce verset nous parle de l'affection d'un homme vis-à-vis de son enfant. Et la suite du récit, pour vous qui connaissez la parole de Dieu, qui en êtes des lecteurs avertis, est la suivante, c'est que cette relation va être cassée, cette relation va être brisée. Il va y avoir une rupture. Tout simplement parce que séparation va avoir lieu, parce que les frères de Joseph vont décider de le vendre, de s'en débarrasser. Et Joseph va suivre son chemin de gloire en prison, de souvenir en oubli. Dieu va savoir prendre soin de lui et cet homme qui avait été vendu comme esclave va finalement devenir numéro 2 de la civilisation la plus avancée de l'époque, c'est-à-dire l'Égypte. Et pendant ce temps-là, son père, Jacob, était en train de mener un deuil. Un deuil qu'il n'arrivera finalement jamais à mener. Il n'arrivera jamais à se remettre de cette séparation. Dans le cœur de cet homme, dans le cœur de son papa, de ce papa, il y a une rupture. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et pourtant, mes amis, durant toutes ces années, Dieu va veiller aussi bien sur Joseph jusqu'à l'élever dans cette position que je viens de vous mentionner que sur Jacob, sur ce père qui finalement souffrait de cette séparation. Dieu va avoir des paroles de consolation pour l'un comme pour l'autre. Et dans votre vie, permets-moi peut-être de te tutoyer de loin dans l'auditoire, mais dans ta vie, peut-être as-tu connu une séparation, quelque chose qui t'a fait mal, quelque chose qui t'a blessé, quelque chose qui a laissé une trace, quelque chose que tu traînes depuis des années et qui est là, comme ancré au fond de ton cœur. Tu es comme Jacob, fond de ta maison, en te souvenant de quelqu'un que tu aimais et qui est peut-être parti. Et sans le savoir, Dieu va guider toutes choses afin que les retrouvailles puissent avoir lieu. Et Joseph va envoyer un message à son père. Et c'est sur ce message que j'aimerais réfléchir. Parce que de la même manière que Joseph a voulu faire du bien à son père, eh bien sache que dans le ciel, il y a Jésus qui veut également te faire du bien. Qu'il veut également envoyer une invitation, envoyer un message. La première partie du message que Joseph va envoyer nous parle d'urgence. Puisque il dit au chapitre 45, au verset 9, « Hâtez-vous de remonter auprès de mon père » lorsqu'il s'adresse à ses frères. « Dépêchez-vous d'aller annoncer la bonne nouvelle à mon père. » Et moi, je suis pressé, je suis désolé de vous dire que, eh bien, il y a un Dieu qui vous aime. Je suis pressé de vous dire qu'il y a un Dieu qui veut prendre soin de vous. Je suis pressé de vous dire qu'il y a un Dieu pour lequel vous avez du prix. Je suis pressé de vous dire qu'il y a un Dieu qui peut solutionner finalement cette blessure affective. Je suis pressé de vous dire qu'il y a urgence peut-être dans votre cœur, dans votre vie, parce que la dépression est en train de fondre sur votre cœur, la dépression est en train de fondre sur votre vie, et cette rupture est comme finalement un poids. Dépêchez-vous de vous approcher de celui qui vous invite. L'auteur aux Hébreux nous dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez-vous faire. Vous sortirez libre de cette salle. Peut-être même plus libre que lorsque vous y êtes entré. Seconde chose que je vois dans l'invitation que Joseph va adresser à son père, c'est que cette invitation concerne le fait de se retrouver dans la présence l'un de l'autre. Genèse 45 dit, « Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi. Tes fils et tes filles, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. » Tu seras près de moi. C'est l'une des plus belles réalités de l'Évangile et de la Bible. c'est que Jésus nous veut près de lui. Oh, nous les hommes, on met souvent une distance entre lui et nous. Hein. Et parfois, on veut en mettre beaucoup de distance. Je ne veux pas m'en occuper, je ne veux pas m'en préoccuper. Dieu, c'est pour les faibles. Dieu, c'est pour ceux et celles qui n'ont pas d'autre solution que de croire à de telles choses. Moi, je suis fort, moi, je suis solide, moi, je sais les choses. Moi, je connais la vérité. Non, on ne connaît que sa vérité. Et là, il y a cette vérité, ce verset de l'évangile de Jean que j'aime beaucoup, lorsque Jésus dira qu'il est monté au ciel pour nous préparer une place. Parce que sa volonté est que nous soyons avec lui. Dans le ciel, mais lui veut être avec nous sur la terre. Lui veut vivre à nos côtés sur la terre. Qui parmi nous n'a jamais de problème ? Qui parmi nous n'a jamais eu envie d'un ami qui soit là instantanément, qui soit toujours présent, qui réponde toujours aux textos, qui réponde toujours aux mails, qui réponde toujours aux appels, qui réponde toujours aux coups de téléphone immédiatement ? Qui n'en a jamais rêvé ? Qui n'a jamais désiré cela ? Vous comme moi, vous êtes peut-être resté pendu au bout de votre téléphone en disant « Est-ce qu'il va me répondre ? Est-ce qu'il va me répondre ?» C'est ce que Jésus nous propose. C'est tout simplement une connexion directe entre lui et nous. Un jeune gamin de 16 ans, perdu dans les fumées de la drogue, perdu dans les fumées de la violence, un jour a envoyé un texto au Dieu du ciel en lui disant « Reconstruis ma vie ». Et instantanément, ce jeune homme a été délivré de l'alcool. Instantanément, ce jeune homme a été délivré du tabac et de la drogue. Certes, il a mal terminé, il a fini pasteur, il est devant vous cet après-midi. J'ai envoyé un texto. Jésus m'a répondu. En mettant tout simplement dans mon cœur la paix et la tranquillité. Parce que Jésus voulait être avec moi dans mes problèmes. Jésus voulait être avec moi dans ma dépression. Jésus voulait être avec moi dans mes tracas, dans mes tourments, dans mes méandres, dans mes arcanes. Troisième chose que Joseph enverra dans le message qu'il adresse à son père, ça comporte des promesses de rassasiement. Là, je te nourrirai car il y aura encore 5 années de famine. Je te nourrirai. On rêve d'avoir quelque chose qui nourrisse notre corps, ne plus avoir à manger. Combien de fois dans ma vie j'ai entendu ma mère dire « Si seulement je n'avais pas à préparer le repas, je ne sais plus quoi faire à manger. » Mesdames, hein, quel casse-tête. Et si seulement nous n'avions pas plus à manger physiquement, ça serait extraordinaire ça. Quoique pour nous Français, ça serait peut-être un calvaire. Et bien souvent, nos âmes, on essaie de les rassasier. Vous savez que si notre corps a besoin de manger, notre cœur, notre âme, notre esprit a besoin de manger également. Il a besoin d'être nourri, il a besoin de spiritualité, il a besoin d'émotions, il a besoin de sentiments, il a besoin de choses qui viennent d'en haut, il a besoin de choses qui nous fassent brûler de l'intérieur, il a besoin de choses qui nous fassent sentir que nous existions, il a besoin de choses qui nous font sentir que nous sommes aimés. On a besoin d'être nourri intérieurement. Qui parmi nous n'a pas besoin d'être aimé ? Qui parmi nous n'a jamais souffert du fait de ne pas être aimé ? Qui parmi nous n'a pas souffert du fait de ne pas avoir de dignité dans les yeux de celui qui est en face ? Qui parmi nous n'a pas eu besoin de nourrir son être intérieur ? Alors on peut le nourrir au travers des yeux de son mari, de son épouse, au travers d'une position sociale. On peut le nourrir au travers de l'argent, on peut le nourrir au travers de la drogue, on peut le nourrir au travers de la religion, on peut le nourrir de toutes sortes de manières. Je me souviens de cet homme qui le nourrissait à coups de réflexions théologiques. Il connaissait toutes les religions, mais son âme était vide, parce qu'il ne la connaissait qu'avec sa tête. Qui n'a jamais essayé de nourrir ? Et finalement, on s'aperçoit, tout comme Jésus s'adressera à cette femme samaritaine, en lui disant, si tu bois de l'eau que je te donne à boire, tu n'auras plus jamais soif. Et comme il dira à ses disciples, si vous mangez du pain que je vous donne à manger, vous n'aurez plus jamais faim. Ta quête de spiritualité peut cesser à partir du moment où tu vas chercher dans le panier de Dieu ce qu'il te faut. Qu'est-ce que c'est bon d'être rassasié. Quand vous avez très faim, vous savez ? Vous avez très faim, vous mangeriez à peu près n'importe quoi, même du McDo. J'ai fait de la pub, zut. N'importe quoi. Le premier Big Mac qui passe, hop, enfilé. Pourtant, hein, c'est très bon, j'en mange. Qu'est-ce que c'est bon d'être rassasié ? Qu'est-ce que c'est bon de connaître Jésus ? Je vous assure, ça change une vie. Quatrième partie du message, c'est que l'invitation émane directement de Joseph. Il l'envoie par ses frères, mais l'invitation vient directement de Joseph. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. C'est moi-même qui vous parle. C'est pas moi qui vous parle cet après-midi. C'est Jésus. Oubliez-moi, je compte pas. Oubliez que j'ai pas de cravate, oubliez que j'ai pas de veste. Oubliez toutes ces choses. Et voyez derrière l'invitation qui vous est lancée, eh bien l'invitation de Jésus, l'invitation du Fils de Dieu, l'invitation de celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante, l'invitation du Créateur du ciel et de la terre, qui, eh bien, cet après-midi, eh bien, lance cette invitation, lance cet appel extraordinaire de dire « Je veux rassasier ton âme, je veux que tu cesses de vivre dans la famine, je veux que tu cesses d'aller bouffer n'importe quoi, je veux que tu cesses d'aller manger à n'importe quel râtelier, je veux que tu nourrisses ton âme de bonnes choses, je veux t'inviter à la table du roi, je veux que ton cœur soit nourri réellement et pleinement. » Quelle belle invitation, non ? Je veux changer ta vie et je veux changer ton cœur. Cette invitation, c'est une invitation personnelle qui nous est adressée de manière personnelle. Si elle ne concerne, s'il y a une seule personne cet après-midi qui se sent concernée, je serai heureux. S'il y en a deux, je le serai encore plus. Pas pour moi, mais pour l'œuvre de Dieu et surtout pour vous. Et puis, cette invitation, il y a plein de promesses dedans. Lorsque Joseph dit « Là, je te nourrirai ». Dans l'Évangile, il y a plein de promesses, vous savez. Quand on lit la Bible, on s'aperçoit que Jésus est tout à fait capable de guérir. Guérir un corps. Souviens de cette femme qui est rentrée dans ce lieu avec un cancer du poumon et qui en est ressortie guérie. Aujourd'hui, elle s'est fait baptiser il y a quelque temps de cela dans la région parisienne. Je me souviens de cet homme alors que je faisais, un jour, je suis appelé pour faire un service funèbre pour une personne que je ne connais pas. Et lorsque j'arrive au crématorium, je vois plein de monde, je me dis chouette. Et puis en fait tout le monde s'en va et je vois arriver deux femmes et une enfant qui s'assoit. Je prends mes recueils de chants, je chante tout seul. Je prêche tout seul, je prie tout seul, elles me serrent la main, elles s'en vont. Je dis chouette, j'étais content. Et derrière moi, tout d'un coup, j'entends « Monsieur le pasteur, monsieur le pasteur, monsieur le pasteur !» Je me retourne et là, c'est le monsieur des pompes funèbres qui me court après. « J'ai jamais entendu quelque chose comme ce que vous venez de prêcher. Pourtant, j'en ai fait hein, des services, j'ai jamais entendu quelque chose. » Et cet homme-là s'est converti. Il a été muté en région parisienne également, aujourd'hui dans l'église de Clamart. Extraordinaire, non ? Cet homme a trouvé quelque chose en Jésus. Il a trouvé cette nourriture. Il y a des promesses dans l'Évangile et des promesses qui s'accomplissent. Promesses d'un changement de vie, promesses d'une joie, promesses d'une réalité, promesses de sentiments nouveaux et surtout, eh bien, promesses d'une relation avec notre Dieu qui courra jusque dans l'éternité. Lorsque l'on regarde un petit peu plus loin, Jacob, en entendant cela, vous avoir une réaction que vous pourriez avoir cet après-midi, en entendant ces quelques points que je viens d'évoquer rapidement. Jacob pensait que son fils était mort, puisque c'est ainsi qu'on lui avait présenté la chose. Pensait que Joseph était mort, c'est ce que ses fils lui avaient dit. Comment est-ce qu'on vous a présenté Jésus ? Comment vous a-t-on présenté Jésus ? Comme un petit enfant qui est resté dans une crèche et qui n'a jamais grandi ? Comme un grand homme qui est mort mais qui n'est jamais ressuscité ? Comme un grand Dieu mais qui a autre chose à faire que de s'occuper des hommes ? comme quelqu'un qui s'occupe des autres, mais pas de vous. Comment vous a-t-on présenté Jésus ? Et à un moment donné, Jésus dira à ses disciples, « Mais qui dit-on que je suis ?» Tu es Élie, tu es un des prophètes. Pierre dira, non, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mes amis, Jésus n'est pas simplement mort, mais Jésus est ressuscité. Jésus est dans le ciel aujourd'hui. Et vous savez ce que fait Jésus alors qu'il est ? Il prie pour vous. Il prie pour chacun d'entre vous. Vous savez ce que fait Jésus ? C'est qu'il est en train de pleurer. C'est que ce que fait Jésus, c'est que dans son cœur, il y a ce sentiment que enfin vous puissiez, eh bien, véritablement, à vouloir cette rencontre, vouloir cette intimité, vouloir cette relation, cesser peut-être une vie religieuse, cesser peut-être une vie planquée, cesser peut-être une vie cachée derrière des prétextes, et que vous puissiez réaliser qui il est vraiment. Parce que Jésus est le Fils de Dieu ressuscité. Jésus est le Messie. Jésus est celui qui était attendu par le peuple juif. Et Jésus est celui également que tu attends sans le savoir. Jésus est celui qui est capable, eh bien, d'être le libérateur que tu attends, celui qui est capable de prendre les angoisses, celui qui est capable de prendre les peurs, celui qui est capable de prendre tes craintes, celui qui est capable, eh bien, finalement, de changer ta vie, de l'établir sur quelque chose de solide, sur quelque chose de fort. Jésus est celui que tu attends, qui est capable de stabiliser ton couple, de stabiliser ton foyer. Jésus est celui que tu attends parce qu'il est capable de mettre de l'ordre dans ta tête, de l'ordre dans ta vie. Tu en as peut-être assez de vivre de manière désordonnée, tu en as peut-être assez d'aller picorer à droite, à gauche, de te perdre dans des rêves, dans des fantasmes, dans des projets qui ne verront jamais le jour. Mais sache que Jésus est celui que tu attends, qui est capable de changer ce que tu es, de changer ta nature profonde, là où tous tes efforts n'ont jamais suffi. Eh bien, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et lorsque Jacob va entendre ce message, la première chose qu'il va faire, c'est quoi ? C'est de ne pas croire. Aucune réaction. Il va rester froid, nous dit le texte. Il faut dire qu'à la décharge de Jacob, ceux qui portent la nouvelle ne sont pas très crédibles. Je suis désolé si je manque de crédibilité dans mon art oratoire cet après-midi. Jacob ne va pas croire. Et c'est peut-être la réaction que tu as à l'instant T. C'est pas possible, je ne crois pas. Et le fait même que je te le dise prouve que c'est la vérité. Tu as compris mon raisonnement, hein ? Jacob ne va pas croire. Et c'est vrai, comment croire ? Alors que l'on a acté quelque chose depuis des années, que l'on s'est trompé, que l'on nous a menti, et que la réalité est autre. Comment croire alors que l'on s'est efforcé de penser à quelque chose, de croire et de mettre sa foi et sa confiance en quelque chose, que en réalité ce n'est pas la vérité. L'athéisme est peut-être la plus grande religion qui soit. Et on nous apprend à ne pas croire. Et je pense que l'homme, quelque part, doit faire un certain effort pour ne pas croire, parce que la Bible nous dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque homme. On ne croit pas. C'est peut-être votre réaction. Mais que va faire Jacob derrière ? Eh bien, il va avoir des précisions. Ils vont lui rapporter toutes les paroles que Jésus leur avait dites. Toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Qu'y a-t-il dans ton cœur ? Pensée de suicide. Une pensée de suicide. Je crois de tout mon cœur que cet après-midi, une femme a profondément honte, peut-être de sa vie conjugale ou de la vie qu'elle mène. Ce que la vie nous pousse à faire, à avoir des relations qui nous dépassent et qui parfois nous humilient. peut-être que dans ton cœur, tu te satisfais et tu te dis « Ce que j'ai me satisfait, je n'ai pas besoin d'autre chose. » Sache une chose, c'est que tu te mens à toi-même et tu le sais très bien. Et puis, il va voir les chars qui avaient été envoyés pour transporter toute la grâce. Vous avez 4 beaux chars devant vous. Vous avez vu 4 beaux chars. Si, si, vous êtes des chars. Parce que vous véhiculez les promesses et les grâces de Dieu. Vous avez des témoignages vivants que Jésus existe et que sa parole est la vérité. Et ça, c'est extraordinaire. Regardez autour de vous, vous verrez plein de chars. Vous verrez des témoignages, eh bien, de l'amour et de la puissance de Dieu. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et je prie de tout mon cœur pour que cela puisse se produire dans un cœur, dans une vie. Au chapitre, au verset 27, il est dit, au chapitre 37, pardon, il est dit que, et Israël dit, c'est-à-dire Jacob, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je ne meure. Soudain, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de Jacob. Il se met à croire. Et je dirais que il se met à vouloir croire. C'est ce qu'on peut lire dans ce verset, c'est ce qu'on peut lire dans ces quelques mots. Un homme qui tout d'un coup se met à vouloir croire. Il y a quelque chose qui se passe en lui, il y a quelque chose qui se débloque dans son intellect, il y a quelque chose qui se débloque dans son génome spirituel, dans sa tête spirituelle, soudain. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien. Mais il se dit, et si c'était vrai? Et si c'était possible? Et puis, de ce si c'était possible, eh bien la foi vient, la foi naît. Je monterai et je verrai. J'irai. Et je verrai avant que je ne meure. Ouf, rien que sur ce verset, il y a de quoi causer. Vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. Soudain. Et si c'était le moment de dire soudain dans ta vie? Je veux qu'il se passe quelque chose. Je veux croire. Je veux arrêter de me cacher derrière des prétextes, derrière des excuses. Derrière des choses toutes faites. Derrière mes peurs, ma peur de ne pas arriver à être un chrétien fidèle, terrible ça. Voir sa femme vivre et se dire, mais j'arriverai jamais à vivre comme elle, c'est pas possible. Voir sa mère vivre et se dire, mais j'arriverai jamais à vivre comme eux, c'est pas possible. C'est vrai. Tu vivras comme Jésus voudra que tu vives, en faisant tes propres expériences, en apprenant toi-même. Soudain, et ce petit mot a résonné dans mon cœur. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se transforme, de manière inconsciente. Je veux croire que rien n'est impossible à Dieu. Je veux croire que Jésus est capable de changer ma vie. Je veux croire que Jésus est capable de me libérer. Je veux croire que Jésus existe réellement. Je veux croire qu'ils ne sont pas tous fous ceux qui m'ont parlé de lui. Et je veux croire que c'est la vérité. Alors, je me lèverai. Et je verrai. Je veux faire l'expérience. Je veux aller toucher la vérité, là, un petit peu du bout des doigts. Je veux aller voir si ça chauffe ou bien si c'est froid. Je veux aller voir si ça fait du bien ou bien si ça n'a aucun intérêt. Je veux voir si c'est la vérité. Et avant que je ne meure. Avant que je ne meure. Ai-je besoin de développer ? La Bible nous enseigne que il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ingrid l'a bien compris. Mais vous savez, en épilogue, je dirais que, pour conclure ce court message, Jésus est vivant. Et Jésus veut te faire partager cette vie. La croix du calvaire est une réalité. Jésus a connu son chemin de croix, tout comme Joseph a pu connaître le sien. Jésus est monté sur le bois de la croix. Il est mort pour chacun d'entre nous, afin de nous donner accès au char, plein de promesses, afin de nous donner accès à son trône, afin de nous donner accès à Dieu. Jésus est mort, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a été crucifié pour chacun d'entre nous, pour moi le premier. Et Jésus est ressuscité, afin que nous puissions vivre. Nous sommes tous, entre guillemets, atteints d'une souffrance profonde. Qui parmi nous n'a pas été blessé ? Je ne connais pas votre enfance. Je ne connais pas votre vie actuelle. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien d'insoluble pour Jésus. Parce que sur la croix du calvaire, il a tout porté. Parce que sur la croix du calvaire, il a porté nos fautes. Tout le mal qu'on a pu faire, vous savez ? Toutes les paroles blessantes que vous avez pu dire ce midi, et que vous regrettez amèrement peut-être aujourd'hui, il les a portées. Tous les coups que vous avez donnés, et toutes les déceptions que vous avez apportées, Jésus les a portées sur le bois de la croix. Et il est prêt à pardonner quiconque vient à lui en lui demandant pardon. Jacob a cru. Il s'est levé, il est allé voir. Et il a trouvé Joseph. Et toutes les promesses se sont accomplies. Si dans ton cœur, cet après-midi, tu te levais. Si dans ton cœur, tu te levais. Et que tu te décidais à croire. Non pas en toi, non pas en tes propres forces. Mais à croire dans la puissance de Jésus. S'il y avait un soudain, s'il y avait quelque chose qui se passait. On va se recueillir, je vais prier, afin que le Seigneur, eh bien, puisse vraiment faire grâce.